Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nos lacs manqueraient d'amour. La pollution qu'on y retrouve accélère l'eutrophisation et les algues bleu-vert, ce qu'on appelle des cyanobactéries qui rendent les lacs impropres à la baignade et interdisent les activités de loisirs. Les changements climatiques accélèrent encore la production de ces algues en raison de la hausse de la température. Le gouvernement du Québec mise sur le volontariat pour la surveillance des algues bleu-vert. Avec son réseau de surveillance volontaire des lacs, il estime d'ailleurs que les lacs se portent plutôt bien avec un état intermédiaire bon selon un récent rapport de 2020. Ce rapport est plus alarmant du côté de l'introduction des espèces animales et des plantes aquatiques envahissantes. Il s'inquiète aussi de la pérennité des reptiles et des amphibiens qui vivent dans ces milieux humides. Nous vous avions parlé de la rainette faux-grillon qui disparaît de nos terres sous la pression, l'appétit devrais-je dire, immobilière, et la multiplication des activités humaines de ces milieux. Nous allons aujourd'hui plonger dans nos lacs pour voir comment ils se portent. Restez là, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous vous parlons de la santé de nos lacs québécois. Je suis en compagnie de Sébastien Sauvé, qui est professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Il travaille sur les cyanobactéries et les contaminants émergents. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Maxime Wouty, qui est coordinateur de projet en limnologie chez Agiro et docteur en biologie. Agiro, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le riche patrimoine écologique du bassin versant lac et rivière Saint-Charles, c'est bien ça?
C'est bien ça, merci, bonjour à vous.
Donc bonjour à vous. Selon une récente étude menée par les chercheurs de l'Université Sherbrooke, près de 90% des 650 lacs québécois étudiés montrent des traces de polluants. Le récent rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques datant de 2020 est plus optimiste. Il évalue comme intermédiaire bon l'état trophique des eaux des 464 lacs étudiés par son réseau de suivi volontaire des lacs. Donc pour commencer, comment se porte vraiment la santé de nos lacs québécois, professeur Sauvé?
C'est une bonne question. Et il y a effectivement, moi, il y a le réseau de suivi qui continue puis qui se poursuit, mais les gens ont souvent l'impression, la fausse impression, qu'il n'y a plus de problème d'algues bleu vert parce qu'on n'en parle plus.
C'est vrai.
Ça ne fait plus la une des médias. Ça avait fait beaucoup la une des médias il y a plusieurs années. Mais entre-temps, le gouvernement a arrêté de faire des suivis, a arrêté de faire des analyses. Ils n'ont pas de cas à rapporter parce qu'ils font très peu d'analyses. Et donc, les gens ont la fausse impression que le problème est réglé parce qu'on n'en parle plus, mais c'est tout simplement une volonté politique de ne pas faire de suivi systématique chaque fois qu'il y a un bloom d'algues bleu-vert. Donc, on n'a malheureusement pas une bonne information. Il n'y a pas de suivi temporel adéquat dans les sites où il y a vraiment des gros problèmes pour savoir si ça va mieux ou si ça va moins bien. Mais tout porte à croire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est amélioré depuis.
Mais c'est quelque chose de volontaire. Quand vous dites les sites où ça va moins bien, vous pensez à où exactement?
Il y a deux éléments qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le réseau de suivi volontaire. Donc ça, c'est des gens qui travaillent avec le ministère de l'Environnement pour recueillir des échantillons, qui payent, qui envoient leurs échantillons au ministère. Ils ont des analyses. Et donc, c'est un réseau de suivi volontaire. Ça donne l'information. C'est utile. Mais si on est... Ce réseau de suivi-là donne quelques informations de base sur la chimie de l'eau, mais il n'y a aucune analyse dans ça qui va dire s'il y a des cyanobactéries ou pas, s'il y a des toxines ou pas, si on peut se baigner ou pas. Il n'y a rien dans ça. On faisait référence à des travaux d'ailleurs qui montraient qu'il y avait des contaminants, mais dans ça, il n'y a pas d'analyse de pesticides, il n'y a pas d'analyse de différents résidus qui pourraient contaminer l'eau. Donc, oui, c'est utile ce programme-là, mais c'est un strict minimum pour avoir un suivi pour des lacs. C'est souvent des associations de villégiature, des gens, l'association d'un lac qui se rejoint pour avoir un peu d'informations sur leur lac, mais ça reste un minimum.
Oui, les endroits problématiques, selon vous?
Ben, il y a des gros lacs, il y a des grands endroits où on sait, on en parle plus parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens sont plus interpellés. Mettons le lac Memphrégan-Magog, par exemple, qui est assez gros, qui a certains enjeux. Mais quand on parle de lacs, c'est vraiment une multitude de réalités très différentes. Et, tu sais, je ne peux pas dire que c'est un site, un gros lac qui est plus important que les autres. Ouais. Si on a un chalet sur un petit lac, mais c'est ce petit lac-là qui compte parce que c'est là qu'on a un accès à l'eau, c'est là qu'on pourrait se baigner. Puis là, si l'eau est verte, c'est à nous de juger est-ce que c'est trop vert ou pas assez vert ou c'est la bonne couleur de vert. Je peux-tu me baigner ou je ne peux pas me baigner? Ouais. Les gens sont laissés à eux-mêmes pour prendre ces décisions-là.
Oui, et puis c'est dommage. Monsieur Wotti, comment se porte le lac Saint-Charles?
C'est une bonne question. Je dirais qu'il est encore correct, mais son état ne va pas en s'améliorant malheureusement. C'est vraiment un lac qui a vieilli prématurément, ce qu'on dit en limnologie. Quand un lac vieillit prématurément, c'est que normalement, naturellement, un lac met des milliers d'années à vieillir. Et le lac Saint-Charles, on parle plus de vieillissement sur des dizaines d'années. Donc c'est un vieillissement qui est vraiment accéléré. Et ce qui est pour l'instant préoccupant, on va dire, c'est qu'on n'arrive pas encore vraiment à ralentir ce vieillissement du lac. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que vraiment on a pris conscience du problème, qu'on tente de mettre en place des mécanismes, mais ils ne sont pas encore suffisants pour arriver à protéger ce qui est quand même la réserve d'eau potable de la ville de Québec.
Oui, rappelez-nous où est-ce qu'il est situé et à quoi il ressemble.
Le lac Saint-Charles est un lac au nord de Québec, vraiment qui est à cheval entre Québec et la ville de Stoneham. Et c'est un lac vraiment qui s'étend du sud vers le nord, qui a deux bassins, et qui est alimenté essentiellement par la rivière des Hurons, qui vient donc de Stoneham. Donc c'est ça fatalement le gros enjeu aussi au lac Saint-Charles, c'est que c'est un lac qui alimente la ville de Québec, mais l'essentiel de son bassin versant est plus sur les territoires de Stoneham.
Oui, il alimente en eau potable, donc on souhaite qu'il aille.
C'est ça. C'est un enjeu, effectivement. Au Québec, on a un peu cette impression que l'eau est facile d'accès et pas chère, parce qu'on ne la paye pas en plus au robinet. Mais dans les faits, l'eau coûte quand même cher. Et l'eau qui est facilement accessible pour pas cher, il n'y en a pas tant que ça, finalement, au Québec. Il y a de l'eau partout, mais là où vivent les gens, peut-être pas en suffisance pour tout le monde. Et ça devient un enjeu dans certaines municipalités, certaines villes. On commence à comprendre que l'eau, finalement, elle n'est pas aussi. Elle n'est pas aussi bon marché qu'on pouvait le penser auparavant.
Oui, entendu. Quelles sont les menaces et les enjeux majeurs, professeur Sauvé, sur justement nos lacs? C'est large, hein, mais voilà, les contaminants, j'imagine.
Oui, c'est une grosse question. Les enjeux majeurs. Un des enjeux, c'est qu'on est tous un peu concernés par les changements climatiques. Oui. Et j'aime bien plutôt reformuler puis parler de changements globaux. Donc, quand on parle de nos lacs, il y a comme un mélange où, oui, il y a des changements climatiques, il y a un réchauffement, et notamment les algues bleu-vert prolifèrent plus si c'est plus chaud, mais elles sont surtout nourries par l'excès d'azote et de phosphore, donc c'est de l'engrais. Et donc, il y a un mélange selon les environnements d'un apport qui est agricole. S'il y a beaucoup d'agriculture dans le bassin versant, clairement, ça va rajouter beaucoup d'azote et de phosphore. Et ensuite, ça peut être aussi des installations sanitaires individuelles plus ou moins conformes ou des stations d'épuration qui laissent aller un peu de nutriments. Donc, tout ça se combine pour rajouter une charge qui contribue à l'eutrophisation puis au vieillissement prématuré des lacs, comme on discutait tantôt, mais à promouvoir la prolifération d'algues et de toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un enjeu certainement clair qui a des répercussions à travers toute la province.
Pour le lac Saint-Charles, les deux bassins versants, c'est quoi leur menace?
Ouais, elles sont nombreuses. On a l'avantage de ne pas avoir d'agriculture dans le bassin versant, ou très très peu, ce qui fait qu'il n'y a au moins pas trop d'apport d'engrais. Maintenant, il y a beaucoup d'habitations sur installations septiques et beaucoup trop par rapport à la densité de résidence. C'est d'ailleurs un gros enjeu, effectivement. Je pense que l'enjeu principal, c'est d'arriver à raccorder les réseaux d'égouts, les réseaux d'égouts des villes de Stoneham et de Lac-de-Lage à celles de Québec. Ce serait déjà une grande bouffée d'air pour le lac Saint-Charles. Maintenant, il y a aussi d'autres enjeux comme l'érosion des berges, l'imperméabilisation des sols avec l'urbanisation, parce qu'on est quand même en milieu relativement urbain.
Et le béton,
tout ce que ça implique. Donc, ça amène également un problème de gestion des eaux de pluie. Il y a beaucoup de ruissellement dès qu'il y a un peu d'orage. Beaucoup de matières qui traînaient sur les routes, sur les toitures, sont directement envoyées au lac sans filtration au préalable. Et l'autre gros enjeu maintenant, de plus en plus, c'est les sels de voirie, qui sont étendus donc en hiver sur nos routes. et qui commence petit à petit, très progressivement, on se rend compte que nos lacs, nos rivières sont de plus en plus salés. Et c'est clair que ça va devenir un enjeu dans les prochaines décennies si on ne prend pas le problème à bras-le-corps dès maintenant.
Oui, la pollution provoque, vous l'avez dit, l'eutrophisation des lacs. Donc c'est un déséquilibre dû à la hausse de concentration de phosphore et d'azote. Et elle multiplie, par exemple, les algues bleu-vert, les cyanobactéries dont on parlait. Quelle est la situation concrète qu'on pourrait relier au manque de suivi de la part du gouvernement, selon vous, professeur Sauvé?
Ben,
est-ce que c'est pire qu'avant, autrement dit?
Pire qu'avant, je ne suis pas certain que la situation sur le terrain soit pire qu'avant. Je ne pense pas qu'elle s'est beaucoup améliorée. Il y a certainement des efforts au niveau de l'agriculture. Il y a définitivement des programmes. Il y a des agriculteurs novateurs qui font des belles initiatives, qui font des efforts. Mais tout ça n'est pas encore... Ça reste une minorité de producteurs agricoles qui vont adhérer à ça, qui vont faire les efforts. C'est beaucoup d'efforts de leur part. C'est souvent des investissements. Et même souvent qu'il y a des programmes de financement pour aider les autres à adhérer. Puis ceux qui l'ont fait d'avance n'ont pas droit au financement parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc, il y a des petites incohérences dans les différents programmes. Donc, je dirais qu'il y a une amélioration parce que le gouvernement essaie de faire des choses. Mais comme dans plein d'aspects, la coordination à l'intérieur du gouvernement entre les différentes directions, les différents ministères, les différents programmes...
Qui ne se parlent pas forcément.
N'est pas excellent. Il y a du travail à faire dans la coordination. Tout ça, c'est évident.
Monsieur Wauty, vous parliez tout à l'heure de vieillissement de lacs. Comment un lac évolue? Comment un lac... Parce que c'est un milieu vivant. C'est un milieu qui est différent suivant son terreau géologique, on va dire, puis sa faune, sa flore. Parlez-nous de ce vieillissement.
C'est sûr que c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais chaque lac est relativement unique, comme vous l'avez dit, par rapport à plein de choses, son bassin versant, sa forme, son bassin géologique, etc. Maintenant, quoi qu'il arrive, un lac va vieillir. Et grossièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force qu'il y ait de l'érosion, que de la matière organique qui soit dans le bassin versant, que ce soit des forêts, que ce soit une plaine herbacée, peu importe, va finir par arriver dans le lac va s'enrichir en nutriments, azote, phosphore. Naturellement, c'est un processus qui est inéluctable. Et tôt ou tard, le lac va se combler, va devenir un milieu humide, et à la fin, on ne verra plus le lac du tout. Mais de nouveau, ça, c'est un processus qui prend des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et pour des lacs qui sont, on va dire, de la province de Québec, ça prend en général des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que avec l'urbanisation et l'arrivée de l'être humain, avec l'agriculture, on a une eutrophisation qui est dite anthropique ou anthropisée, dans le sens qu'elle est vraiment considérablement accélérée. Et donc un lac peut vieillir, mettons, si j'en vais comparer là, mettons qu'un lac mettrait 10 000 ans à vieillir pour ce même date de temps, ça prendrait peut-être 10, 20, 30, 40 ans actuellement avec l'apport des êtres humains, que ce soit par l'engrais, que ce soit par les fosses septiques qui ne marchent pas bien, que ce soit par des rejets d'eau usée d'usines de traitement qui ne sont pas optimales pour traiter l'azote et le phosphore. Donc c'est sûr que l'être humain a disons un effet considérable sur les lacs, parce que finalement le lac, s'il va recevoir tout ce que l'être humain affecte dans son environnement en le laissant là, entre guillemets. Dès qu'on met un engrais dans notre jardin, dès qu'on laisse une petite fuite d'essence sur la route parce qu'on a vécu la période, une petite fuite à un moment donné, tout ça, à la fin, tout va finir dans les eaux souterraines et in fine dans le lac. C'est ça. C'est vraiment, c'est le goulot d'étranglement. C'est là que se ramassent tous les polluants qu'on a laissés dans le bassin versant. Ils vont tous finir dans le lac. Et donc, ça, c'est vraiment important que, si on veut protéger un lac, de vraiment réfléchir à tout ce qu'il faut améliorer dans le bassin versant. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui est à revoir et à penser vraiment dans une vision de, pour protéger le lac, il faut vraiment protéger tout ce qu'il y a en amont du lac, finalement. Le lac, c'est un peu la ligne d'arrivée. Mais agir juste sur le lac, c'est pas suffisant. Il faut vraiment agir tout ce qu'il y a en amont du lac. Donc c'est vraiment, ça peut des fois être des territoires énormes. Si on prend, mettons qu'on veut protéger le lac Saint-Pierre, par exemple, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts sur tout l'amont, donc tout l'amont du fleuve Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac américain. Donc on se rend compte des fois que c'est des défis qui sont considérables.
Oui, c'est des grands territoires finalement, parce que les bassins versants, c'est pas juste les pourtours du lac finalement, il faut remonter très 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 loin.
Ben, pour un lac de tête, c'est juste le pourtour du lac, mais pour la plupart des lacs qui sont plus en aval, c'est effectivement des territoires qui peuvent être gigantesques.
Oui. Qu'est-ce que la pandémie est venue changer, professeur Sauvé? J'ai vu que les gens, comme ils ne pouvaient pas aller hors du Québec, ils ont redécouvert un peu leur milieu naturel et donc les lacs.
Qu'est-ce que la pandémie... pandémie a changé? Ben, nous, dans la recherche, ça a clairement été un petit peu plus difficile. Là. Il y a eu une
période... d'aller sur le terrain.
Tout
oui.
était difficile. Ben, il y a même des périodes où c'était difficile d'aller au labo. Ensuite, oui, un élément que je retiens de la pandémie, c'est qu'on a quand même été... J'ai été surpris de voir à quel point on a pu se revirer de bord très rapidement, changer des choses très rapidement qu'on n'aurait jamais cru possible. Même les formulaires papier qui étaient sacro-saints à l'université qu'on ne pouvait pas éliminer, ben, ça s'est fait en un tour de main, puis maintenant, le numérique était bienvenu.
Ben, oui.
Donc, au niveau de la société, j'ai été surpris de voir qu'on a pu faire des gros changements.
Oui. Au niveau de nos lacs, au point de vue fréquentation, est-ce qu'il y a eu des changements?
Bien, je pense qu'il y a eu peut-être des petits conflits aussi d'usage, parce que tu as des gens qui ont voulu plus en profiter, qui ne pouvaient pas aller à l'extérieur, qui sont restés sur place. Et donc là, bon, il y a différents endroits où il y a eu un excès de touristes qui n'étaient pas toujours bienvenus et qui n'étaient peut-être pas toujours...
Adéquats,
oui, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a ne serait-ce que les prix des chalets, donc tout le monde voulait un coin de nature, et donc je pense qu'il y a, y a un bout de ça qui est lac, puis il y a un bout de ça qui est nature, donc c'était aussi le confinement a fait qu'après ça, on voulait un petit coin à nous. Donc je pense que ça, dans les lacs, puis dans la nature, ça a probablement aidé à réaliser la valeur, ou ce qu'on discutait tantôt, là, que faut en faire un peu attention, faut réfléchir à ce qu'on fait, donc je pense que ça... Ça a rajouté de la valeur à la nature, au lac, puis au espèce d'écosystème, puis des bienfaits qu'on peut sortir de tout ça. Donc, ça, c'est le bout positif. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques de la pandémie?
Oui. Monsieur Agirou, de votre côté, est-ce que ça a changé quelque chose? Puis, parlez-nous peut-être de votre travail, le travail qu'Agirou fait, finalement.
Pour le travail chez Agirou, il y a vraiment plusieurs volets. Il y a vraiment un volet de, on va dire, sensibilisation, éducation du citoyen, du riverain à comment protéger la réserve, la ressource eau.
Oui, l'eau potable ou
l'eau en général. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a lac Saint-Charles occupe une place importante, mais c'est vraiment l'eau en général dans tout le bassin versant de la rivière Saint-Charles à Québec.
Oui.
Il y a aussi un aspect vraiment de conservation et de renaturalisation du bassin versant. Donc c'est l'importance de replanter des arbres là où c'est nécessaire, de reprendre des vieux sites industriels ou des vieux sites d'enfouissement et de les revégétaliser afin de davantage protéger le lac de nouveau par rapport à tout ça. Les plantes jouent un grand rôle là-dedans.
Oui, qu'est-ce que vous plantez?
Beaucoup d'espèces indigènes. On essaie d'être le plus varié possible pour qu'il y ait davantage de résilience, mais ça va vraiment de petites plantes arbustives à des gros arbres qui sont plantés en vue justement de recréer une forêt qui est la plus résiliente et la plus, j'allais dire, québécoise possible, entre guillemets.
Oui, dans le pourtour des lacs, c'est
pas
ça?
Pas nécessairement. En fait, effectivement, il y a aussi les pourtours des lacs, là où les citoyens vivent, on les encourage effectivement à faire ce qu'on appelle une bande riveraine qui est entre leur propriété et le lac, afin de protéger davantage celui-ci du ruissellement des pluies. Mais même également, c'est des territoires qui sont plus... En amont, mais un peu plus éloigné du lac, on va également effectivement revégétaliser si c'est nécessaire.
Oui.
Plus un bassin versant est composé de sol et de forêt, de surface finalement perméable qui permettent à l'eau de percoler dans le sol, plus le lac sera protégé au final de l'arrivée de polluants.
Oui. Professeur Sauvé, du côté de la restauration, les bandes riveraines, c'est important, et des fois elles ne sont pas assez, on va dire, conséquentes, surtout dans les zones agricoles. J'ai l'impression que des fois, elles se réduisent peut-être un peu trop, parce que c'est ça, finalement, qui va jouer l'effet de filtre, si je comprends bien.
Ben moi, je reformulerais. Il y a quelques producteurs qui ont des bandes riveraines conformes. C'est la minorité. La majorité ne sont pas conformes, point à la ligne. Donc, très peu de
conformes, ça veut dire quoi?
Ben, qu'ils ont la largeur suffisante.
C'est combien?
Je crois que c'est 15 mètres minimum, il me semble. En fait, ça dépend de la pente. Je crois que c'est 15 mètres quand il n'y a pas trop de pente, et je crois que c'est 30 mètres quand on est en situation de pente importante.
Oui, ça, c'est le ruissellement, c'est ça. Ça dépend de la pente, donc ça dépend de la vitesse de ruissellement.
Exactement.
Oui, il y a aussi entre un individu sur son terrain puis un fermier, mais c'est un peu plus compliqué que ça au niveau des fermes, parce que oui, ça prend une zone tampon végétalisée pour éviter que tout se ramasse directement dans la rivière et qu'on soit en train de semer puis de mettre du fumier presque dans la rivière si on n'a pas de bande riveraine. Mais il faut faire attention au drainage agricole aussi. Parce que quand on réfléchit à mettre des bandes riveraines de chaque côté de nos lacs, mais que en pourtour des fermes, si on a un drain agricole qui part, qui traverse tout le champ et qui, qui se rend directement dans la rivière pour évacuer l'eau...
On veut pas ça.
Ben, on, ça change rien qu'on ait une bande riveraine. Là. Si on a une espèce de court-circuit qui passe au travers et qui arrive directement. Donc, donc, il faut réaménager un petit peu ces drains-là. Il faut avoir des captations de sédiments. Il faut avoir une zone végétalisée pour réduire le transfert. Puis, bon... Une des façons de motiver les producteurs agricoles, c'est que quand on fait ce genre de truc-là, on récupère des sols aussi. On diminue l'érosion, on diminue la perte des sols. Les sols, tous les fermiers sont conscients que le sol est précieux puis qu'ils ils veulent le léguer à leurs petits-enfants. Donc c'est peut-être une des façons aussi de motiver les fermiers, c'est de travailler à protéger les sols puis éviter que les sols s'en aillent.
S'en aille dans le lac ou dans la rivière. Donc, on a parlé de pollution et de rejet agricole, mais il y a aussi donc, la grande fréquentation du lac qui pourrait être nuisible à la santé. Qui a accès au lac et comment on réglemente cet accès pour diminuer peut-être et la pollution et les autres nuisances aussi, je pense, aux motos marines ou aux bateaux qu'on ne lave pas. Donc,
c'est vraiment du cas par cas. Là. Ça dépend vraiment d'un lac à l'autre. C'est vrai que déjà il y a beaucoup de lacs où des citoyens ont décidé d'acheter tout le pourtour du lac et histoire d'être sûr que personne ne puisse vraiment aller sur le lac, même si techniquement parlant il serait accessible à tout le monde, mais dans les faits il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de chemin d'accès,
donc les gens peuvent pas y aller.
Les gens peuvent pas y aller, effectivement. Il y a quand même beaucoup de lacs qui sont dans cette situation de Québec, mine de rien. Des lacs où vraiment il y a une mise à l'eau gratuite accessible, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus l'exception que la norme, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait donc que malheureusement, les lacs, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lacs qui sont gratuitement accessibles pour les citoyens lambda, on va dire, ceux qui n'ont pas de maison ou de résidence autour du lac, ce qui fait que ces quelques lacs ont beaucoup, beaucoup de pression. Parce que finalement, tout le monde se ramasse en même temps au même endroit. Si on prend par exemple le cas de la ville de Québec, le lac Saint-Charles est le seul lac de la ville qui est gratuitement accessible à tout citoyen. Partout ailleurs, soit il faut payer, soit on n'a juste pas accès parce qu'il n'y a pas de chemin d'accès. Et donc c'est là qu'il y a un problème, c'est que en voulant protéger son propre lac de l'accès à d'autres citoyens, ben on fait que toute la pression va sur certains lacs qui donc fatalement vont être beaucoup plus soumis à des pressions énormes de la part justement d'arrivées massives de personnes qui ne veulent pas nécessairement mal faire, hein, qui veulent juste profiter de la ressource en eau, et c'est correct de vouloir le faire, mais c'est juste quand il y a trop de personnes au même endroit, en nombre, avec des fois aussi pas toujours les bonnes pratiques, ça crée effectivement des problèmes. Le plus facile à comprendre, bien évidemment, c'est les espèces envahissantes, dont le fameux Merville IP, qui est d'ailleurs présent au lac Saint-Charles, justement, qui est présent dans pas mal de lacs où, justement, il n'y a pas trop de contrôle. Mais en même temps, c'est compliqué de mettre des contrôles parce que ça demande de l'argent. Puis, mais ça demande aussi, surtout, pas mal de sensibilisation et d'éducation du citoyen.
Auprès des gens. Professeur Sauvé, l'accès au lac et cette fréquentation. Si j'ai acheté une nouvelle moto marine ou un nouveau bateau, puis je veux l'essayer, puis je veux m'amuser sur le lac, là. Donc est-ce que je peux aussi brasser les sédiments? Est-ce que je peux justement contribuer à ce qu'ils se dégradent et qu'ils vieillissent plus vite?
Ben, probablement que les embarcations motorisées font des remous, font des bouger l'eau. Donc, il y a peut-être une certaine contribution, mais je pense que au problème. Mais l'enjeu principal est les problèmes liés aux embarcations motorisées. Pour moi, j'en vois deux. Il y a la part de Myriophila IP, parce que c'est beaucoup plus facile de bien nettoyer un canot ou un kayak et d'avoir un bout de branche de myriophile qui est attrapé dans le dos d'un kayak. C'est relativement pas facile, alors qu'autour d'un moteur ou dans les hélices ou dans il y a plein de petits orifices sur des embarcations moteurs où c'est très facile. Et donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est clair, et il y a un enjeu de bruit et de désagrément qui, là, est pas c'est la pollution sonore, si on veut, là, mais tu sais, c'est pas un enjeu de qualité de l'eau, pas principalement, selon moi. C'est beaucoup plus un enjeu de vivre ensemble entre les gens qui veulent la quiétude d'un lac puis ceux qui veulent s'amuser avec leur nouvelle moto marine. C'est deux visions différentes qui s'affrontent, et dans ce cas-ci, c'est pas une question de pollution, c'est une question d'usage et d'usage qui sont un peu contradictoires. Si on veut une quiétude en nature et on veut faire de la moto marine, c'est pas la même chose.
Mais de nouveau, pour rebondir là-dessus, tout dépend du lac aussi. C'est clair que si on a un lac qui est très grand et qui est très profond, avoir un moteur ne fera pas trop d'impact sur les sédiments ou sur l'érosion. Maintenant, si c'est un lac très peu profond, qui fait genre 2 mètres de profondeur, qui n'est pas très large, là, de créer des vagues par le remous d'un moteur va effectivement provoquer une remise en suspension des sédiments, pourrait même provoquer l'érosion des berges s'il n'y a pas une bonne bande riveraine. Donc de nouveau, c'est du cas par cas. Par exemple, au lac Saint-Charles, les moteurs à essence sont interdits, en partie pour cette raison-là. Parce qu'effectivement, on se rendait compte que le lac Saint-Charles, il y a deux bassins, et le bassin sud est très peu profond. Et donc, avec un moteur à essence, on se rendait compte que les sédiments vraiment étaient remontés. Il y avait vraiment un brassage de sédiments à chaque fois. Et donc, ça avait effectivement une incidence sur la qualité de l'eau.
Oui. On a vu qu'il y avait des cyanobactéries, des algues bleues, vertes, là, qui sont quand même une indicatrice de la bonne santé du lac ou pas, là, même si c'est sûr qu'il faut peut-être l'analyser. Mais il y a aussi les espèces indigènes, parce que dans le rapport du ministère du Québec de l'Environnement, il disait que les lacs étaient intermédiaires bons, là, environ, mais parler des espèces indigènes d'herpétofaune, ça c'est les reptiles et les amphibiens. Il y a 56% de ces reptiles et des amphibiens qui sont considérés comme situation précaire. Par exemple, il parlait de la rainette faugrillon. Est-ce qu'il existe une espèce témoin qui pourrait nous alerter quand un lac va mal, justement, ou quand on voit la perte, par exemple, de certains reptiles, de certaines tortues? Est-ce que ça pourrait nous alerter de savoir que ben, si ma tortue ne peut plus vivre, c'est que le lac va pas bien? Professeur Sauvé?
Ben, je pense pas qu'il y a une espèce emblématique qui pourrait être utile.
Comme un canari.
Comme canari. Je pense que c'est l'ensemble, c'est la diversité. Il y a quelque part où plus il y a d'espèces un peu plus rares ou un peu moins fréquentes qui sont présentes, plus ça démontre, un, que l'environnement est précieux, qu'il y a une richesse, et qui est capable de faire vivre des espèces un peu plus rares ou un peu plus fragiles. Alors que si on réduit le nombre d'espèces pour ce qui est très résilient, mais là, on voit qu'on a un écosystème qui est appauvri, en fait. Et donc, c'est plus la richesse de ce qu'il y a de présent, autant en termes de plantes, d'animaux, d'oiseaux, d'amphibiens, de poissons. Peut-être qu'il y a des exemples précis, mais moi, je dirais avec la diversité.
Il a entièrement raison, je suis d'accord avec lui. Maintenant, c'est sûr que pour un citoyen lambda, c'est dur de vraiment percevoir la diversité. Donc, moi, d'instinct, il y a l'espèce que je pense directement, c'est l'ombre de fontaine. Parce qu'il est vraiment très sensible à n'importe quelle forme de pollution ou de réchauffement de l'eau ou d'apport de nutriments venant du bassin versant. Donc, si vous avez la chance d'avoir un lac ou une rivière qui a de l'ombre de fontaine et que vous vous rendez compte qu'il y en a moins qu'avant ou qu'il n'y en a plus du tout, que les prix sont moins nombreuses qu'auparavant, c'est effectivement un signe avant-coureur qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas très bien dans votre lac ou dans son bassin versant.
Oui, merci beaucoup. Donc, vous venez de l'entendre, on était en compagnie de Maxime Wauty, coordinateur de projet en limnologie chez Agiro. On va vous mettre le lien si vous êtes curieux de connaître cet organisme, et de Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
Merci.
Voilà ce qui complète l'émission pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez cette émission sur la page de l'émission, sur le site de l'agence Science Presse, ou alors cette semaine, le jeudi. En attendant de vous retrouver, passez tous une très bonne semaine.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.